Vous écoutez
RMC. RMC After Live, intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
Salut à toutes et à tous. Eh oui, les nuits de l'after, de retour. Il est 4h30 du matin en France. Il est 22h30 ici à New York, 35 même désormais. Et on est ensemble jusqu'à 6h du matin avec le grand Maxime Chanot. Salut Max.
Grand, ouais, 1m87.
Ouais, grand par le talent, la taille, l'histoire, la carrière,
oh, l'intellect. Ça commence bien. Salut à tous.
Ça va Max?
Mais écoute, ça va.
Les couleurs du Brésil.
Ben oui.
Qui vient de s'imposer.
Qui a encore gagné. Comme quoi, je le dis depuis le début, suivez mes maillots et vous allez gagner beaucoup d'argent.
Aucune défaite pour l'instant.
Pour l'instant, aucune défaite.
Victoire 3-0 du Brésil avec début inscrit par Matheus Cunha, doublé Vinicius. Les trois marqués en première période. On va débriefer la victoire de la Seleção, la première dans ce mondial après le nul face au Maroc. Qu'en avez-vous pensé? On parlera aussi de la blessure de Rafinha qui n'a pas été bon. Mais qui est blessé, donc a priori c'est musculaire là aussi. On va évoquer les éventuelles conséquences. Pour l'instant on n'a pas d'infos sur la gravité, le degré de la blessure de Rafinha. Le Barcelonais décidément pas épargné par les pépins physiques depuis plusieurs mois et cette saison en particulier. On va débriefer aussi la victoire du Maroc 1-0 face à l'Écosse qui s'est fait peur quand même malgré une nette différence de niveau face aux Écossais. Qu'en avez-vous pensé? On débriefera avec vous et Max tout à l'heure. Et puis on écoutera aussi les premiers mots d'Hervé Renard qui est dans une mission difficile, certains diront impossible, avec la Tunisie, les infos équipes de France, composition probable. Trois changements attendus peut-être pour l'équipe de France face à l'Irak lundi à 23h heure française. Alors, on a un direct, on a le sélectionneur, Sébastien Migné, en direct, sélectionneur de Haïti, battu 3-0 par le Brésil.
Sébastien, nous avons attendu un match compliqué ce soir. Ces analyses.
C'est dommage, dans l'entame du match, on est dans ce qu'on voulait faire. Gagner du temps pour les contrarier et porter les stockades. À un moment donné, après, on savait que les pertes dans le cœur du jeu, on allait être puni. C'est du très très haut niveau en face et on a été un peu naïf à ce niveau-là, négligent. Voilà, on va apprendre de ça malheureusement. Et comme je vous l'avais dit au départ, on est formaté pour ne rien lâcher et être en vie au dernier match. Il faudra le gagner.
Est-ce que vous pouvez faire plus dans la construction de jeu?
Bon, voilà, on va rester là pour Sébastien Migné, sélectionneur d'Haïti. Le Brésil est leader devant le Maroc, 4 points tous les deux grâce à la meilleure différence de but bien sûr. Haïti, c'est 0 point pour l'instant, dernier match face à l'Écosse.
Ils sont toujours
pour les Haïtiens, ils sont en vie, mais moins 4 différence de but mon ami. Il va falloir marquer. Gagner et marquer et espérer être un des 8 meilleurs 3e pour voir les semi-finales. Ça semble plutôt compromis, tant que l'Écosse est pas si mal que ça, avec 3 points aussi. L'Écosse voudra 1 point pour espérer se qualifier. J'ai dit une bêtise. Qu'est-ce que je raconte?
Si, pas mal.
C'est bien ça. Hein.
L'Écosse 3, c'est ça, Haïti 0.
C'est ça. Exactement. Et dernier match, c'est bien ça.
C'est ça.
Ouais, c'est bien ça.
Ah, si t'es déjà fatigué au bout d'une minute de l'émission, on est mal barré.
Alors, on accueille un ancien Marseillais, Nancéen, Troyen, mais surtout Brésilien. Demetrius Ferreira est avec nous. Salut Demetrius.
Salut, bonsoir à tous.
Merci d'être avec nous. Je rappelle, t'es à Sao Paulo actuellement, c'est ça, hein?
Oui, exactement. Je suis à Sao Paulo.
Raconte-nous comment on vit un match du Brésil, même si c'est en face, entre guillemets, que Haïti. Est-ce qu'on le vit avec ferveur, dans la fête, l'attente aussi, et même voir l'appréhension?
Oui, on avait une grande expectative par rapport à le match d'aujourd'hui. Par rapport au premier match que la sélection il a fait en face du Maroc, donc on avait une très expectative de bien jouer, de faire un gros match, surtout de gagner pour pouvoir respirer un peu plus tranquillement et penser au dernier match de cette première phase. Et c'est vrai que bon, ils ont fait une très bonne première mi-temps, marqué 3 buts, ils pouvaient marquer encore d'autres buts aussi. Mais je pense qu'ils ont diminué, ils ont levé le pied en deuxième mi-temps. Encore, ça va, parce qu'avec le Tahiti, tu peux faire ça. Mais il faut penser que d'ici vers avant, ça va être difficile. Il va prendre des équipes avec beaucoup de qualité. Il ne peut pas se permettre de faire un deuxième mi-temps comme ils ont fait aujourd'hui.
C'est intéressant ça. Hein. Il y a la première qui est bonne, la deuxième qui et qui l'est beaucoup moins, Maxime.
Bah non, exactement. Ça a été résumé. Alors, je sais pas vraiment si on peut débattre sur ce match-là tellement la différence de niveau entre les deux équipes est flagrante. Je parle uniquement sur le papier. Hein. Même si le sélectionneur haïtien l'a très justement dit, ils sont encore en vie. En tout cas, ils ont montré malgré tout. Je vais commencer par Haïti. Je trouve un beau visage d'eux-mêmes. Je les ai trouvés malgré tout entreprenants. Après, ils ont fait des erreurs. Et quand tu joues contre le Brésil, contre cette qualité individuelle qu'a le Brésil, et notamment devant avec Vinicius, avec Cunha, mais tu te rends compte que dès que tu fais la moindre petite erreur, ben c'est but derrière. Donc c'est vrai qu'il y a eu deux mi-temps. La première mi-temps qui a été vraiment en faveur du Brésil, où est-ce qu'ils ont été consciencieux, où est-ce qu'ils ont marqué ces trois buts. Et puis en deuxième mi-temps, où est-ce que le Brésil a galvaudé entre guillemets, hein, ils ont eu des occasions. Il y a cette blessure aussi de Rafinha qui vient mettre un petit peu en suspens la suite de sa compétition, parce qu'on ne sait pas exactement quelle est la nature de sa blessure, mais au vu de sa tête, j'ai bien peur que ça soit un peu plus grave qu'uniquement un coup, donc ça, on verra ce que ça va donner. Mais voilà, aujourd'hui, il y avait une équipe qui était bien supérieure, le Brésil, à Haïti, et c'est un peu la problématique, Nico, de cette Coupe du Monde à 48. J'ai beaucoup de respect, évidemment, pour ces petites nations, et tu sais que j'ai défendu les couleurs du Luxembourg, donc je suis bien placé pour en parler. C'est bien de donner la chance à tout le monde, mais finalement, tu as quelques matchs quand même qui. Ouais, je ne vais pas dire inutile parce que ça serait un petit peu manquer de respect.
C'était c'est un match de prépa pour la suite du mondial pour le Brésil.
C'est ça,
clairement.
C'est
et moi, je veux croire qu'ils ont un peu arrêté de jouer aussi parce qu'ils menaient 3-0 à l'émission.
Bien sûr. Mais
ils
n'ont pas forcé. Quel est l'intérêt finalement ouais. Enfin, tu vois, le sélectionneur l'a dit, Haïti qui viennent de prendre deux valises, entre guillemets, et qui sont encore en vie pour pouvoir se qualifier sur le prochain tour. Bon, ça va être très, très difficile.
C'est contre le Maroc, hein, j'ai mis tout à l'heure. C'est Maroc,
c'est quasiment
Haïti,
impossible. Mais bah, tu vois, je trouve que ce format de compétition à 48 équipes, moi, je suis pas le premier fan, en tout cas, de ça.
Il y a quand même des enseignements à tirer. Igor Thiago n'était pas titulaire Demetrius. Il a fait le choix, Ancelotti, de Matheus Cunha, qui met un doublé. On peut considérer désormais qu'au moins jusqu'au prochain match, en tout cas, jusqu'en 16e peut-être, hein. Il a gagné sa place, Demetrius.
Après, c'est deux oppositions différentes.
Oui, il faut la relativiser, mais quand même, quand t'es coach, t'as un attaquant en confiance qui a marqué un doublé contre un qui n'a pas été bon contre le Maroc. Qu'est-ce que t'en penses, Demetrius? Quelle est ta position par rapport à ça au numéro 9?
Moi, j'avais dit depuis le début que je préférais Matheus Cunha parce qu'il ne joue pas qu'avant-centre, il ne reste pas devant dans la surface. Il sort, il joue comme un numéro 10 aussi, donc il a la qualité pour le faire aussi. Il a montré aujourd'hui, il a joué beaucoup au milieu de terrain, on est dans les milieux de terrain, donner des bons ballons aux attaquants aussi. Il arrive aussi pour marquer des buts comme il a fait aujourd'hui, il a marqué deux fois. Et c'est un joueur techniquement qui est beaucoup plus fort do que Igor Thiago, donc je préfère 10 fois Matheus Cunha que Igor. Mais bon, Igor, je pense que c'est une bonne option. Et si t'as besoin de marquer des buts, de garder le ballon devant, c'est un gars qui rentre
et garde
le
ballon.
C'est deux profils différents.
Matheus Cunha, il y a beaucoup plus de qualité que lui, quoi.
Ouais, et c'est pour ça que c'est la vraie question, c'est de savoir pourquoi Ancelotti avait décidé de mettre Igor Thiago titulaire plutôt contre le Maroc. En fait, c'était ça. Je pense qu'on avait été tous très très surpris. Bon, cette fois-ci, il a tranché, il a préféré mettre Cunha devant, ça a fonctionné. Mais bon, Nico, je te le redis encore une fois, mais avec beaucoup de respect.
Bien sûr.
Sur le même style de défense entre la défense marocaine et la défense haïtienne.
Mais tu peux considérer qu'il démarre à son Cunha
ce
prochain match.
Ça paraît presque logique d'ailleurs avoir un Cunha titulaire avec la Seleção. Enfin, je veux dire, depuis le début, c'est ce qui devrait être fait. Après, bon, Ancelotti avait fait ses choix sur le premier match, mais clairement là, je pense qu'il a gagné, sa place, en tout cas pour le prochain match.
Voilà, exactement. Vinicius, vous en avez pensé quoi? Il a fait du Vinicius, génial, enthousiasmant, agaçant aussi parfois, mais il a régalé, trop facile pour lui là aussi, Demetrius.
Oui, ben, on le connaît bien, hein, tout ce qu'il fait au Real de Madrid, on sait bien ses qualités. C'est vrai que parfois, tu joues contre des équipes qui a deux, trois joueurs sur lui, donc parfois c'est difficile pour lui. C'est pour ça aussi qu'il faut voir autour des bons joueurs pour garder le ballon et au bon moment lui donner des ballons qui puissent faire la différence. Et c'est ce qui se passe en ce moment au Brésil. C'est vrai que même si on joue contre Haïti, qui ne pose pas trop d'opposition pour le Brésil, je pense que ça fait du bien parce que le Brésil avait besoin, quoi. Il avait besoin de gagner, de faire un bon match, de pouvoir travailler, respirer et penser pour la suite.
J'ai bien aimé le terme agaçant. Oui. Ouais, je trouve que ça le résume bien.
Ouais, c'est Vinicius, il est génial et à la fois agaçant.
On le connaît en effet, mais il a toujours tendance à faire la touche en trop et surtout en deuxième mi-temps. Mais c'est vrai que quand tu regardes le début de la compétition pour Vinicius, c'est lui qui marque contre le Maroc là et là il marque encore son et but, oui. Il fait la passe décisive sur le but.
C'est aussi grâce à lui que le but voilà.
Exactement.
Il frappe, le ballon est relâché, Cunha marque.
Donc, non, il faut mettre en avant. Et en fait, quand tu regardes plus globalement, c'est quasiment toutes les stars de ce mondial qui fonctionnent bien. Hein. Que ça soit Kylian Mbappé, que ça soit Haaland, que ça soit Messi. Bon, il y a que notre ami Ronaldo là. Qui cherche un petit peu
sa jeunesse.
C'est
ce qu'on dit hein, sur Ronaldo. Ouais. T'as compris, t'as vu, hein, Cristiano là.
Ouais.
C'est dangereux.
Ça a l'air.
Le moindre mot, le moindre message sur X, même ses coéquipiers.
Ça se retourne pas
c'est
contre
le feu.
Moi, comme
t'as la moitié de la planète qui te monte dessus. Attention, touche pas à la statue.
On t'aime, Ronaldo.
C'est le meilleur.
On peut quand même dire.
On croit en toi, tu peux encore finir à 15 buts, Cristiano, sur ce mondial. Et gagner champion du monde.
On peut quand même dire ce qu'on pense sur Cristiano.
Et a cherché un 6e ballon d'or. Non, c'est fini, tu n'as plus le droit de dire quelque chose.
Parce que j'avais plein d'anecdotes.
Fabrice Hawkins est avec nous. Fabrice nous a rejoint. Salut Fabrice.
Salut les gars.
Salut
reporter
Fabrice.
Reporter RMC Sport. Tu penses quoi de Cristiano Ronaldo, Fabrice, toi ?
Exceptionnel.
Évidemment.
Très grande carrière.
Grande carrière, ça oui. On peut pas ironiser là-dessus. Immense carrière. Mais aujourd'hui, t'en penses quoi ?
Bah, il met plus un pied devant l'autre.
Hein.
Oh là là ! Regarde ton compte Twitter, c'est bon.
Découpez-moi ça à Paris, les CM, tout ça. Juste, et on traduit hein, en portugais, en anglais, en espagnol, en allemand, en coréen, en japonais. Très. Et en arabe aussi, surtout.
Fabrice, blacklisté de tous les stades.
Non, mais c'est compliqué, mais c'est pas que de sa faute. À un moment donné, il y a quelqu'un qui le met sur le terrain, il y a quelqu'un qui assume cette responsabilité-là, et bon, on le met sur le terrain, lui, il joue. Hein.
Un mot quand même de Rafinha. Demetrius est avec nous toujours, Ferreira. Il n'a pas été bon, encore une fois. Je vois sur les réseaux, certains disent qu'il simule une blessure pour justifier un mauvais match. Évidemment, ça. Ça semble peu crédible quand même. Il est blessé. Je rappelle qu'il a manqué 22 matchs cette saison avec le Barça et avec la Seleção. Hein. Tout confondu. Fragile, Rafinha. Est-ce qu'on en parle au Brésil ce soir sur sa blessure ? Est-ce que ça inquiète vraiment au Brésil, Demetrius ?
Oui, ça inquiète parce que bon, on sait que Rafinha, c'est un grand joueur. Hein. Tout ce qu'il fait au Barcelone, c'est impressionnant. Maintenant, on attend toujours qu'il fasse la même chose avec la Seleção. C'est vraiment bizarre de le voir jouer aujourd'hui à son niveau qu'il joue quoi. Donc il y a quelque chose de bizarre. On savait pas qu'il était blessé et aujourd'hui on a vu que vraiment même le temps qu'il est resté sous le terrain, bon à part la tentative d'un but qui était hors jeu, mais il a pas fait grand chose. Donc c'est bizarre de le voir comme ça. Et
est-ce que finalement ce serait pas notre Ousmane Dembélé du Brésil, Rafinha?
Oui, il y a un parallèle, il a du mal à trouver. C'est intéressant ce phénomène-là, de ces joueurs excellents.
Et parce que c'est différent, parce que t'as
des grands clubs européens.
T'as très peu de temps aussi à trouver les automatismes avec les copains, parce que t'as tellement l'habitude d'être en club quand t'arrives en équipe nationale. Il faut comprendre que parfois en équipe nationale, quand le match est le samedi, t'arrives le mercredi ou le jeudi, hein, ça dépend en fonction de ton dernier match avec le club. Je pense que c'est aussi un facteur à prendre en compte.
Je vais accueillir Clebson au 32-16, supporter de la Seleção. Salut Clebson!
Salut les gars, bonsoir.
Bienvenue, heureux de t'accueillir, ça va ?
Merci.
Fabrice Hawkins est là, Maxime Chanot également. Bon, ton analyse globale de ce match-là, es-tu satisfait ?
Sincèrement, pas beaucoup. Tu sais, on voit Vinicius qui arrive, comme Dimitri l'avait dit. Il y a Vinicius qui arrive, il commence à jouer un peu, sauf le jeu au Real. Après, Rafinha, on voit que c'est évident, c'est clair qu'il est pas à l'aise dans son jeu. C'est pas le même. Je sais pas s'il a peur. Enfin, Maton, il s'est blessé. Et tu sais, au Brésil, on parle énormément d'Hendrick. Il a rentré, il a marqué. Même c'était hors jeu, mais il a marqué. Chaque fois qu'il rentre, il marque. Après, à mon avis, Lancelotti, il est en train de tester, tu sais, l'équipe encore. À mon avis, il a pas encore l'équipe. Et lui, vraiment, dit tiens, ça c'est mon équipe.
Ouais. C'est quand même pas fou d'arriver dans une grande compétition, et c'est pas que propre au Brésil. Attention, hein, je contredis pas ce que tu es en train de nous affirmer, mais c'est quand même dingue. T'as des qualifs, t'as des matchs amicaux, et t'as certains sélectionneurs ou certaines nations qui n'ont pas encore leur 11 titulaire de dessiner. Moi, ça me paraît complètement incongru.
Ah bon?
Bah oui, mais attends, c'est fait pour ça justement, Nico.
Ouais,
tu vas arriver prêt sur
le temps de prépa. Fabrice aussi avec l'équipe de France, c'est assez court quand même. Deschamps a la chance d'avoir des assurances que beaucoup de sélections n'ont pas.
Et voilà, et c'est pas normal.
Parce que t'as un temps de prépa qui est extrêmement réduit aussi.
Mais oui, mais t'as
Carlo, répétition avant ça. Et très honnêtement, moi, ça ne m'étonne pas non plus que tu tâtonnes un petit peu. Alors après, il y a tâtonner. Quand il y a 3, 4, 5 postes où tu n'es pas certain de celui qui doit débuter, oui, c'est un vrai, vrai problème.
Avec toi.
Dans l'équipe de France, bon, à un ou deux postes près, on sait à peu près qui va jouer. Mais encore une fois, le football de sélection est différent que. Est vraiment différent du football de club et c'est normal qu'il n'y ait pas les mêmes automatismes.
Non, mais tu as un état de forme et je l'entends que sur certaines positions, type l'équipe de France, par exemple, tes arrières latéraux, tu ne sais pas exactement un deux joueurs près, mais de là, parfois à critiquer peut-être ou à changer complètement ton schéma tactique. Enfin, je veux dire, encore une fois, t'as 12 mois, t'as presque 12 ans entre chaque grosse compétition.
Là, il observe, il a joué à Haïti, c'est pas grave, il a 4 points, c'est coffré.
Non, mais bien sûr,
il savait qu'il serait pas en danger sur ce match-là. Il observe encore comment des mecs aussi répondent à des grandes compétitions. Comment un Hendrick répond à une autre compétition, comment un Matheus Cunha répond à un
Donc en fait, c'est un pari, t'arrives à la Coupe du Monde, c'est un pari, tu te demandes si les joueurs.
Mais c'est la situation du Brésil aussi, hein. T'as peu d'assurance offensivement à part Vinicius. Et Rafinha éventuellement, et encore quoi.
Non mais totalement, et puis même pour faire le parallèle avec l'équipe de France, parce qu'on en parlait, en réalité on ne sait pas si Doué va terminer le tournoi, on ne sait pas si Théo Hernandez va terminer.
C'est différent, c'est une histoire de performance, on est d'accord, si les mecs ne sont pas bons,
oui, il y a moins de concurrence au Brésil, c'est sûr que Rafinha, s'il est forfait, c'est une très mauvaise nouvelle pour le Brésil.
Ils sont très inquiets les médias brésiliens, ils en parlent là, certains annoncent même une fin de tournoi pour le Barcelonais Rafinha. On va suivre ça, c'est important bien sûr. Neymar, on n'a pas encore de certitude qu'il va jouer avant même la phase de poule. A priori, il ne jouera pas avant un 16e de finale, voire un 8e. Certains disent même quart de finale. On va attendre tranquillement. Il faut être extrêmement prudent avec
Neymar. Un mois qu'il n'a pas joué, donc en gros.
Un mois qu'il n'a pas joué, vous rendez compte.
Très peu de chance de le voir.
Ça ferait quasiment un mois et demi. Dimitrius, Clemson est toujours avec nous au 32-16. Il parlait d'Hendrick. On en a parlé, hein. C'est énorme star au Brésil. Je crois qu'il y a une majorité des supporters de la CLSAO qui voulaient le voir titulaire ce soir également.
Oui, la majorité, tout le monde le demandait pour jouer. Mais je pense que l'entraîneur il a raison. Il faut même s'il rentre, quand il rentre, il joue très bien, il marque des buts. Mais je pense qu'il a une caractéristique de vraiment d'avant-centre. Et Matheus Cunha non, il sort, il aide aussi le milieu de terrain. Donc ça fait la différence. Je pense que c'est pour ça aussi que l'entraîneur a décidé de mettre Matheus Cunha. Mais Hendrick, c'est vrai que c'est un joueur exceptionnel. Quoi, chaque fois qu'il rentre dans l'équipe nationale. Et il marque des buts, il se crée des occasions, il court beaucoup, et donc c'est un joueur pour l'avenir de la sélection, c'est extraordinaire. Maintenant, c'est vrai que si Rafinha, il est vraiment blessé, que je pense qu'il est blessé, parce que bon, c'est pas normal de voir un mec autant de qualité de jouer comme il joue en ce moment, et je pense qu'il sera blessé, ben, peut-être qu'Hendrick va avoir une opportunité d'être titulaire, quoi.
Pas plus Clemson, qui est le remplaçant là, dans l'absolu évident pour pallier l'absence de Rafinha, c'est Ryan, comme on l'a vu, il l'a remplacé, hein, le jeune Ryan.
Oui, bah c'est la même position en fait. Voilà quoi, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de changements là-dessus. Je crois que ça va être lui. Hein. Il y a pas après Ancelotti, il peut nous surprendre, changer tu vois complètement, mais à mon avis c'est Ryan. Oui.
Bon. Ryan, 19 ans, je le rappelle, hein, il a une équipe assez jeune quand même devant, hein, Carlo Ancelotti. Merci Dimitrius, c'est devenu.
Ben, merci à vous. Au plaisir, hein, il y a bientôt, hein.
Ah, bah, à bientôt, j'espère, hein. On prend rendez-vous avec toi. On se parlera peut-être après le match contre l'Écosse. Brésil-Écosse, vous vous rappelez ou pas Brésil-Écosse, ça vous rappelle quoi? Vous êtes trop jeune, peut-être.
Coupe du Monde 98?
Ouais, match d'ouverture, la Coupe du Monde 90, Stade de France.
Ouais.
Brésil-Écosse.
Ouais. Je vais le lire.
T'allais le dire aussi, hein.
Ouais, le grand Ronaldo. Le vrai Ronaldo. Celui qu'on pourrait encore critiquer, d'ailleurs.
Celui qui est dans les tribunes.
Voilà. Le vrai Ronaldo. Voilà. C'est ça, une fois, j'ai dit ça à l'antenne. Ouais. Le vrai Ronaldo, j'ai reçu 5 messages.
Ouais, mais c'est péjoratif. Ça,
il y a 10 ans, c'était
non, mais
il y a 5 ans.
Ça, c'est un peu péjoratif. Ça voudrait dire
oui,
que c'est faux.
Non, parce qu'en fait, appelons-le Cristiano. Comme ça, on fait la nuance.
Bah, vous deux, là, vous êtes dans les viseurs de Cristiano.
Ah, moi, j'ai rien dit.
Moi non plus,
j'ai rien dit. Ah, non, moi, j'ai rien dit. Je suis pas coupable.
Arrête.
Cristiano, j'ai toujours kiffé et tout. Voilà, quoi. Clemson, merci, hein. D'avoir été
merci
disponible.
Vous, les gars.
Tu vis où, okay, Clemson?
Bien sûr, bientôt. Je fais que l'été.
Ah, donc tu t'es levé pour le match, tu t'es pas couché en tout cas, c'est ça?
Non, je suis pas couché. J'ai réveillé, puis après, ça y est, ça prend la journée, quoi.
Merci, Clemson, d'être venu sur RMC. C'était un plaisir de t'accueillir.
Bonne sieste.
À quasiment 5h du matin en France, à Créteil. Donc, il est ici, 22h54. Fabrice Hawkins est à mes côtés. Maxime Chano également. Il y a un match encore. Un match ce soir, au petit matin, si vous vous levez, ce samedi matin, avant d'aller faire un footing, pour regarder Turquie-Paraguay, commenté par Florent Germain, qui est avec nous. Salut, Flo!
Salut, Nico! salut à tous.
Salut Fabrice. Il est quelle heure chez toi là? Pareil.
Pareil. Boston.
T'es pas en Californie. T'es pas à Santa Clara, mon cher. Rien secret. Et quand on dit ça, bien sûr. Alors, Flo, Turquie, Paraguay, deux déceptions du premier tour, surtout la Turquie du premier
deux
match,
défaites,
battu 2-0 face à l'Australie. Ça fait beaucoup de bruit en Turquie. Qu'est-ce qu'il y a, Max?
Surtout le Paraguay, non? Déception. On était plus déçus de la Turquie ou du Paraguay?
Voilà, Turquie, non,
c'est intéressant.
Moi, j'attends beaucoup de la Turquie aussi.
Quand même, il y a des beaux joueurs en Turquie.
C'est différent. La Turquie, ils se sont fait avoir par des Australiens qui ont joué.
Tu parles de la physionomie.
Voilà, je te parle de la physionomie.
Ouais, non, plus, je te parle
de Paraguay. Le Paraguay, ils se sont fait.
Le statut, l'effectif, le groupe. Tu vois, je pensais que la Turquie, on avait un peu plus quand même. Flo.
Mais c'est vrai que j'ai vu le match de la Turquie contre l'Australie. Je me suis refait un petit résumé. Honnêtement, c'était un beau match. Et les Australiens, ils ont été hyper efficaces, solides derrière, c'est vrai. Mais les Turcs ont eu pas mal d'occasions quand même, donc on peut imaginer qu'ils ont vraiment cette envie de prendre leur revanche, en tout cas de se relancer. Par contre, du côté des Paraguayens, ça a été vécu comme une petite crise, hein, cette claque contre les États-Unis, une grosse claque, et à tel point qu'il y a eu des grosses déclats. Je regardais un peu dans la presse paraguayenne là de Gustavo Alfaro, le sélectionneur, qui disait en gros critiquez-moi, de toute façon après la Coupe du Monde je partirai, frappez-moi, j'encaisserai les coups, mais les joueurs, laissez-les tranquilles. C'est le bien le plus précieux qu'on a dans ce pays. Donc, il s'est mis en bouclier pour protéger ses joueurs, le sélectionneur Gustavo Alfaro. Mais là, c'est vrai qu'on a deux équipes qui, en plus, avec la victoire des États-Unis contre l'Australie, peuvent vraiment se relancer s'il y a une victoire. Les hymnes viennent d'être chantés ici à San Francisco avec un stade qui est magnifique, qui est grandiose, qui est extraordinaire.
Clair obscur, un côté ensoleillé, un côté dans l'ombre superbe. Est-ce que Vincenzo Montella, le sélectionneur de la Turquie, a enfin aligné Kenan Yıldız? Il n'est pas titularisé pour le premier match. Moi, j'avais pas compris personnellement. Arda Güler était là, évidemment. Est-ce qu'ils sont associés?
Oui, Yıldız est là, Arda Güler également, le quatuor offensif du côté de la Turquie, c'est Aktürkoğlu évidemment, et Akgün, le joueur de Galatasaray qui a été préféré au niveau du secteur offensif à Yılmaz. Donc Yıldız, Güler, Akgün et Aktürkoğlu, Çalhanoğlu est évidemment là pour ce qui est du milieu de terrain et capitaine de cette sélection. Et du côté du Paraguay, on va retrouver le meilleur ami de Gilbert Bribois, Julio Enciso, évidemment, qui est titulaire. C'est la compo qui était annoncée. Il y a des joueurs qui flirtent parfois avec les 70 ou 90 sélections, hein. Gustavo Gomez, Junior Alonso, on a des joueurs assez habitués au final à des grosses compétitions, en Amérique du Sud notamment. Le Paraguay qui n'a pas dit son dernier mot dans cette compétition et qui veut pourquoi pas réitérer l'exploit de 2010 où ils avaient été en quart de finale. Ça va être compliqué, mais ils peuvent se relancer ce soir, cette nuit, dans un match honnêtement qui est très ouvert. Turquie semble légèrement favorite, mais c'est un match qui peut être assez serré et peut-être sympathique à regarder parce que les deux équipes sont en quête de rachat.
Et qu'on va suivre en gros fil rouge avec toi, Flo Germain, ce Turquie, Paraguay, coup d'envoi dans moins de 3 minutes désormais, le Paraguay ou la Turquie pour espérer rejoindre l'Australie qui est à 3 points désormais, les Américains, on en parlera tout à l'heure en fin d'after, qui sont qualifiés déjà pour les semaines de finale après leurs deux victoires, bien sûr. On fait une pause dans un instant, on va parler de Maroc-Écosse, la victoire marocaine face aux Écossais, moins convaincante contre le Brésil qu'un nul contre le Brésil. Venez en parler avec nous également au 32-16, bien sûr. Max Chano est à mes côtés, Fabrice Hawkins aussi, et puis les infos équipe de France à venir avec Fabrice. Des changements peut-être à prévoir dans le 11 des Bleus face à l'Irak. Restez avec nous, vous écoutez RMC. Les Nuits de l'After, à tout de suite.
RMC, After Live, intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
Les Nuits de l'After, Maxime Chano est là, Fabrice Hawkins aussi. On est ensemble jusqu'à 6h du matin. Et oui, on va vous réveiller, vous les leftos du week-end, du samedi matin. On est heureux d'être avec vous.
Les couches tard.
Les couches tard. Ou les couches tard, ceux qui rentrent de boîte. Mais est-ce que tu penses que quelqu'un qui est en discothèque, par exemple, nous écoute? Est-ce qu'il met RMC?
Bien sûr qu'il met RMC.
Je crois.
En tout cas, dans tous les taxis en France.
C'est la Coupe du Monde en même temps.
Ouais. Dans tous les taxis en France, on est en direct.
C'est sûr qu'il y a RMC.
Donc, en règle générale, après les boîtes de nuit,
tu Radio Taxi.
Je ne sais pas comment s'est passée ta soirée.
Voilà,
tout à fait. Tout à fait. Comment s'est passée ta soirée d'ailleurs, Fabrice?
Excellente.
Très bonne soirée. Très bien. Tu arrives de Manhattan.
Manhattan.
Pour le New Jersey. Le match a commencé. Il y a 40 secondes. Flo Germain. Sur qui parle?
Mais parce qu'il nous manque, à Boston, Fabrice. Hein. C'est bien beau à New York, mais. Ah oui.
J'arrive.
C'est un peu le taulier quand même, toi.
Le groupe vit bien, quoi. C'est merveilleux.
On se retrouve à Philadelphie et on rentre tous ensemble. C'est parti à San Francisco, 0-0 entre la Turquie et le Paraguay. On va suivre cette entame de match, voir si les Turcs essayent d'aller de l'avant tout de suite. La frappe qui va au fond des filets, superbe but d'entrée en l'ouverture du score pour la Turquie, la frappe lointaine, pied gauche, magnifique, avec donc cette possibilité d'ouvrir le score d'entrée pour les Paraguayens. Les Paraguayens qui marquent. J'avais un petit doute sur l'identité du buteur. C'est Galarza qui frappe. Et donc les Paraguayens qui prennent par surprise les Turcs. 1-0 pour le Paraguay. L'entame catastrophique de la Turquie. Vincenzo Montella qui n'en croit pas ses yeux, qui est en train d'applaudir quand même et d'encourager ses coéquipiers. La frappe à 25 mètres environ, un petit peu moins peut-être, une vingtaine de mètres de la cage turque. Et donc le Paraguay qui ouvre le score, 1-0. C'est le joueur d'Atlanta, en plus, qui joue aux États-Unis. Donc Galarza, Matías Galarza, sa 16e sélection. Une frappe petit filet, poteau rentrant, qui permet donc au Paraguay d'ouvrir le score. 1-0 pour les Sud-Américains.
Ça va faire plaisir à Gilbert. C'est Enciso justement qui décale le ballon
magnifique.
Galarza est derrière, il frappe pur, hein. Il se prend pas la tête, il se pose pas de questions. Ras du sol, pied gauche, a fini dans le petit
joueur filet, d'Atlanta, MLS.
Exactement. Quoi, il y a énormément de qualité.
Il est arrivé là cette année, Atlanta. Galarza, le Paraguay mène 1-0.
Bon début.
Petite sensation quand même. Les Turcs, c'est dur pour les Turcs.
Grosse sensation.
Tu veux te relancer? T'en prends un dès la deuxième minute.
Après, ça peut te réveiller.
Ça peut te réveiller.
On était déçus de la première journée.
Non, elle est très bien. La deuxième pour l'instant, elle part bien. En parlant de réveiller, je pense qu'on a réveillé le mec qui sort de boîte, là, à mon avis. Avec Flo Germain qui a.
En tout cas, on t'a réveillé toi.
Qui, avec ses commentaires latino, bien propre à lui, a réveillé tout Paris, toute la France peut-être. 5h du matin.
Comment? J'ai dit, on t'a réveillé toi et ça, c'est le plus important. Là, je te sens en forme. Là,
ah non, mais j'y suis là. Je suis dans mon émission, dans ma nuit de l'after. Je suis très bien entouré. Fabrice, Maxime et Flo. Parmi mon top 10 préféré sur RMC, je crois.
C'est qu'on va pas te payer pour ça.
Non, c'est sincère tout ça. Évidemment. Alors, bien sûr, on suit ce match en fil rouge avec Flo Germain, micro ouvert. Il nous alerte dès qu'il y a une grosse occasion, un penalty, un but. On est là pour suivre ce Turquie-Paraguay. Alors, Nico Pelletier arrive dans un instant. Est-ce qu'il est là? Nico Pelletier va venir dans un instant. On va parler du Maroc aussi. Mais d'abord, tiens, faisons équipe de France. Fabrice, avec toi, on va inverser les talks dans ces nuits de l'after. Attends, d'abord, Flo, c'est chaud là sur le terrain.
Oui, c'est haché.
Oui, c'est chaud. Wow. Un carton jaune qui a été sorti. Il y a effectivement eu un contact, une échauffourée derrière. On va voir si le jaune pourrait se transformer en rouge. Je ne pense pas. Honnêtement, il y a une grosse faute, c'est vrai, du joueur paraguayen sur...
Ça traîne quand même.
Sur Akgun. Akgun qui est au sol. Il fait non. D'ailleurs, c'est le buteur, hein, Galarza, qui fait signe qu'il n'y a pas une faute énorme. La faute, elle est très claire. Il prend le bas du tibia du joueur turc. Et il y a une grosse pression sur l'arbitre pour mettre plus qu'un carton jaune. Il a sorti le carton tout de suite. Je ne pense pas, honnêtement, que Galarza mérite plus qu'un carton jaune, même s'il faudra quand même regarder l'état de santé du joueur. Je ne sais pas si ça peut influer sur une intervention de l'arbitre vidéo, mais en tout cas c'est parti fort au niveau des buts, ou en tout cas de l'ouverture du score paraguayenne. Dès la première minute, le 1-0, la frappe de Matías Galarza, et derrière une grosse faute de la part de ce même joueur sur donc Akgun, l'attaquant qui évolue à Galatasaray. 4 minutes et 45 secondes de jeu, il se relève, le joueur turc, il boitille un petit peu, mais ça va aller. 1-0 pour le Paraguay.
Alors Fabrice, lundi on a le temps de voir venir encore, 23h, France-Irak, match 2 de l'équipe de France qui a battu le Sénégal, 3 points déjà au compteur, et l'occasion de sceller la qualification pour les 16e, même si objectif évidemment première place. 3 joueurs pourraient faire leur apparition dans le 11, Fabrice.
Oui, d'après ce qu'on a constaté, en tout cas d'après les échos qu'on a eu de l'entraînement à huis clos, c'était le premier de la semaine, le seul d'ailleurs depuis cette victoire contre le Sénégal mardi. Et ce qu'on a pu constater effectivement, c'est que Didier Deschamps, d'après ce qu'il a mis en place, pourrait intégrer 3 joueurs par rapport à la première rencontre, c'est-à-dire Lucas Digne à la place de Théo Hernandez, Manu Koné au milieu à la place d'Aurélien Tchouaméni et Bradley Barcola à la place de Désiré Doué. Ce sont des tendances qui devront être confirmées par les entraînements de demain et d'après-demain, donc de veille de match aussi. Mais a priori, on se dirigerait vers cela. Après, c'est pas très étonnant parce que c'est les échos qu'on avait aussi, qu'il pouvait y avoir entre 1 et 3 changements. Là, on se dirige vers
quand même
3 changements.
Ouais, quand même. Eh ouais, non, c'est pas rien, 3 changements.
Et de savoir, est-ce que c'est une punition pour les joueurs qui ont sous-performé ou est-ce que c'est un turnover? Comment tu le vois?
Moi, pour moi, c'est un turnover. Il veut voir le maximum de monde. Il veut donner du temps de jeu. Il veut éviter ce qu'il avait pu faire aussi en 2024 avec pas mal de frustration parce qu'il n'avait pas beaucoup fait tourner. Et finalement, il avait perdu au moins 1 ou 2 joueurs en cours de route. Je pense notamment à Benjamin Pavard. Donc, je pense qu'il y a une idée de récompenser ceux qui sont performants, qui pourraient être titulaires aussi.
Voilà, c'est pour ça, surtout.
Mais Barcola a eu Lucas Digne, hein, qui,
Manu Koné aussi.
Qui ont le niveau pour être titulaire.
C'est la différence avec 2022.
C'est pas une punition, par exemple, pour un garçon comme Aurélien Tchouaméni.
Ouais. Exactement. Le gap est pas énorme entre ces trois-là et les trois titulaires. Il est même discutable, même débattable, d'ailleurs. On le fait depuis plusieurs semaines.
Non, c'est les trois, là, quand tu me demandes qui pourrait éventuellement rentrer dans ce 11 titulaire. Moi, je citerai ces trois noms. Donc, c'est pour ça que je me posais la question. Ouais. C'est vrai que Théo Hernandez et Tchouaméni n'ont pas fait un match exceptionnel. Barcola a fait une très très belle rentrée. C'est la raison pour laquelle je vous demande si tu penses que c'est une punition vu
Tchouaméni, j'imagine
sa performance.
Non, mais l'esprit de Deschamps, il va au bout.
Mais quand t'es joueur et que tu sais que tu sors sur ce deuxième match, je peux te dire que tu sens quand même la pression arriver. Donc ça va peut-être mettre aussi une piqûre de rappel à ces trois joueurs. Enfin, en tout cas, si les trois joueurs qui devaient sortir, on a dit Théo Hernandez, on a dit Tchouaméni, quel est le troisième, Fabrice?
Doué.
Doué. Je pense que ça peut permettre aussi à certains joueurs justement de se réveiller.
Je pense que la concurrence, c'est sur un de ces trois postes, elle est plus forte entre Bradley Barcola et Désiré Doué. Ouais, on en a parlé déjà, même si dans l'esprit Doué est un peu devant.
Même Lucadine, ouais. Mais ça, tu sais que c'est
Lucadine,
pas
vraiment, vrai. Lucadine, vraiment, Lucadine.
Encore une fois, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est assez.
Théo Hernandez, c'est tout libre pour Deschamps.
Non, mais en fait, il n'y a pas un gap énorme entre ces joueurs-là.
Oui, mais dans l'esprit Deschamps.
Dans l'esprit Deschamps, Tchouaméni, ça ne bougera pas. Il est vice-capitaine. Sauf cataclysme, il jouera tous les matchs qui sont importants. Maintenant, je ne suis pas persuadé que si Lucadine sort un très gros match lundi et que derrière, il est en difficulté, Théo Hernandez contre la Norvège.
C'est possible.
Moi, je ne suis pas persuadé que ce soit Théo Hernandez qui soit aligné contre la Norvège.
Et
le poste le plus intéressant pour moi, ça reste celui d'ailier parce que. Dans l'esprit de Didier Deschamps, contrairement à Luis Enrique, il n'y a pas de Doué n'a pas une marge énorme par rapport à Bradley Barcola. Ce sont deux joueurs très talentueux que les deux entraîneurs apprécient beaucoup, mais on sent bien que dès qu'il y a la possibilité de mettre Désiré Doué devant Bradley Barcola, Luis Enrique il le fait, et je pense même qu'il a une petite préférence pour Désiré Doué, ce qui n'est pas forcément le cas pour Didier Deschamps.
Alors pourquoi ça c'est intéressant, c'est qu'est-ce qu'il voit Deschamps en Barcola que ne voit pas assez peut-être Luis Enrique?
Tout simplement les qualités du joueur, et tu l'as vu quand Barcola est rentré, la manière dont il a d'attaquer la profondeur. Et quand tu regardes un petit peu ce quatuor offensif que Deschamps avait mis en place, que ça soit Dembélé, que ça soit Mbappé, que ça soit Olise et puis Désiré Doué, finalement, est-ce que t'as pas le sentiment, alors ils sont, ce sont des joueurs différents, attention, mais qui ont particulièrement les mêmes qualités, alors qu'on sait que Barcola peut apporter énormément de verticalité, et c'est peut-être ça aussi que Didier Deschamps a envie de mettre en place, c'est-à-dire d'avoir des forces différentes sur le terrain. Et c'est vrai que quand t'as Barcola sur le terrain, ça te permet de jouer un peu différemment aussi. Quand les blocs sautent, tu peux mettre les ballons dans le dos. Enfin voilà. Donc
non, mais totalement. Surtout que sur les quatre offensifs, s'il repart encore avec ce système-là, en fait, il y en a deux qui demandent tout le temps dans les pieds systématiquement. Ousmane Dembélé en profondeur, c'est fini. Il demande dans les pieds.
C'est fou,
aussi.
Ça, mais oui.
Et donc d'avoir Mbappé et un autre qui demande dans la profondeur, on l'a vu sur le but de Bradley Barcola. Mbappé aspire à gauche, Bradley Barcola coupe, et en fait c'est deux appels en profondeur à des endroits différents qui permettent aussi à Bradley Barcola de pouvoir filer au but.
Ça permet un petit peu de varier les appels de balles, de donner un peu plus de profondeur aussi au jeu des Français, parce que c'est vrai qu'il est très vite lisible avec ce quatuor offensif qu'avait Didier Deschamps avait mis en place sur le premier match. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. On sait que Barcola il a la problématique de pas forcément être très très régulier, mais bon, Deschamps en tout cas lui donne l'opportunité de pouvoir se montrer. Je pense que vraiment ça serait un plus pour l'équipe de France.
Dembélé, tu l'as dit, maintenant il attend le ballon dans les pieds. C'est son évolution aussi au PSG qui veut ça.
C'est ça.
Mais pendant 8 ans, 10 ans dans sa carrière, avant d'être réajusté par Luis Enrique, il aimait le ballon dans la profondeur. On peut quand même considérer qu'il est capable de demander le ballon dans la profondeur, Ousmane Dembélé. C'est
cas,
quoi? C'est un refus catégorique? C'est quoi?
Non, mais après,
parce que là, il va jouer à droite. On est d'accord, Fabrice. Ça, c'est l'autre information qu'on a.
Bien sûr.
C'est qu'il veut basculer à droite.
Oui, parce que le staff a apprécié le match de Michael Olise, comment il est rentré dans l'axe, et la connexion aussi avec Kylian Mbappé. Il fait beaucoup, hein. On va pas se mentir. On a bien vu que les deux s'entendaient bien, et il faut un Kylian Mbappé qui puisse être au top. Maintenant, Ousmane Dembélé, il va vraiment falloir retrouver des automatismes à droite. Moi, je suis pas très inquiet pour lui, parce qu'encore, c'est un garçon qui a énormément de talent, qui a une palette qui est large. Après, ça fait longtemps aussi que je l'ai pas vu déborder, dribbler 1-2 joueurs et centrer, donc il faut retrouver ces automatismes là.
Ouais, mais c'est justement ce système un petit peu hybride, hein, je pense qu'il le dessert, tu vois. Je trouve qu'il est souvent hors de position parce que justement Didier Deschamps aime bien mettre en avant le fait qu'il y a des positions, mais elles sont pas arrêtées. On a vu Dembélé rentrer dans l'axe, on a vu Mbappé décalé sur le côté gauche, et j'ai le sentiment que ça joue pas en la faveur de Dembélé cette situation. Alors après, juste pour revenir par rapport à l'intégration de Barcola contre un bloc bas qui risque d'être significatif, hein, parce qu'on connaît un petit peu l'Irak, on l'a vu jouer sur la première journée de cette compétition. Je trouve ça surprenant de mettre Barcola à ce moment-là, alors que tu t'attends forcément à avoir un bloc bas. Est-ce que ce serait pas plus nécessaire de faire rentrer Barcola sur les 30 dernières minutes, comme il a fait sur le dernier match d'ailleurs? J'aurais mis Barcola, par exemple, moi, titulaire sur le premier match.
Ah bon?
Ouais, et j'aurais gardé, par exemple, Doué plus dans un système où est-ce qu'il a besoin de demander les ballons dans les pieds, pouvoir combiner dans les petits espaces, même si c'est vrai que Désiré Doué a fait un superbe match amical avant le début de la compétition. Donc bon. Après, c'est les choix de Rich, attention, hein, Didier.
Oui,
Deschamps,
voilà.
Je pense que c'est vrai que Barcola était sur la dynamique vraiment de ce qu'il venait de voir en prépa, de ce que les garçons, les joueurs avaient montré aussi en club. Donc Désiré Doué, ça semblait logique. Ousmane Dembélé dans l'axe, ça semblait logique aussi. En tout cas, on sait qu'Ousmane Dembélé, il voulait jouer aussi dans cette position axiale. Il l'a dit à plusieurs reprises. Même chez Jérôme Roten récemment en fin de saison en entretien. Donc pour moi, sur cette première rencontre, il était dans la continuité de ce qu'il faisait en club, de ce qu'il avait vu en prépa. Là maintenant, sur ce deuxième match-là, je pense qu'il va être beaucoup plus alerte aux enseignements qu'il a tirés de la première rencontre et de ce que lui peut avoir déjà comme idée. Parce qu'il y a encore quelques semaines, quelques mois, moi, les échos que j'avais, c'est que Bradley Barcola, c'était le titulaire à gauche. Et donc ça m'étonne pas du tout, moi, de le voir arriver dans cette position là d'autant plus que Désiré Doué n'a pas fait le match
exactement, je suis d'accord avec toi,
même s'il faut nuancer parce que c'est sa première rencontre de Coupe du Monde, il est très jeune, il a un talent
immense.
Et Barcola,
c'était quoi, il est entré, il a marqué aussi,
ouais, mais
il rentre sur la fin
où est-ce que le bloc est ouvert,
jouer la concurrence, voilà. Et c'est vrai que si Bradley Barcola fait un gros match contre l'Irak, même si ce n'est que l'Irak, la question va se poser de qui est-ce qui est le titulaire contre la Norvège.
Et puis n'oublions pas que si on regarde là, cette première mi-temps contre le Sénégal, je ne sais pas si on peut retirer un seul joueur. Je te parle de ce quatuor offensif.
Tu as totalement raison.
Il n'y a que cette deuxième mi-temps qui permet aujourd'hui de donner...
Parce qu'on parle beaucoup de Désiré Doué, mais je ne suis pas sûr que les autres étaient
meilleurs. Exactement,
hein.
En première mi-temps.
Je ne suis même pas sûr que ce soit le plus mauvais.
C'est possible aussi. Oui, c'est possible aussi. Bah, moi, la prestation d'Ousmane, pour moi, était la moins aboutie, la moins réussie. En fait, Barcola arrive dans cette deuxième mi-temps où est-ce que le bloc sénégalais commençait un petit peu à s'ouvrir. Il y avait énormément de fatigue et donc ça a créé des espaces. Il y a évidemment cette association avec entre Mbappé et Olise qui a fait beaucoup de mal justement à la défense sénégalaise, et ça a permis, tu l'as dit très justement, Fabrice, à Barcola de pouvoir prendre les espaces et de pouvoir marquer ce but-là.
Il en profite.
Mais c'est vrai que contre l'Irak, juste pour terminer, avec ce bloc bas qui risque d'attendre les Français, je suis pas convaincu que les qualités de Barcola risquent d'être mises en valeur.
C'est intéressant, effectivement. Même si dans un petit espace, il est pas
habile, c'est pas un mauvais joueur,
on est Barcola,
quand même.
Et était numéro 1, c'est le champ devant lui. Mike Maignan, on en a pas beaucoup parlé, nous, de son premier match le soir. On a des échos sur comment il a vécu ce match-là, justement. C'était l'un des moins bons Français de cette rencontre, pour le coup. Et c'est limite inquiétant également. Alors, est-ce que là aussi, c'est première Coupe du Monde dans la peau du taulier, du titulaire, qui a pu jouer sur sa performance? C'est un taulier, quand même. Il a 30 ans, le Milan.
Il a joué l'Euro. Capitaine du Milan. Non, il n'y a pas d'inquiétude à son sujet. Bon, c'est sûr qu'il ne faut pas qu'il refasse la même performance. Mais en tout cas, il n'y a pas de grosses inquiétudes. Lui n'est pas satisfait de son match, évidemment, parce que c'est un grand compétiteur. Après, d'après le staff, et ça faut bien aussi en prendre conscience, il y a un tel gap, il y a un tel écart entre lui et les remplaçants que franchement, quand même, il faisait le même match contre l'Irak, il serait titulaire contre la Norvège.
Et dans un fauteuil, mec Maignan. C'est sûr que la concurrence n'existe pas.
Lucas Chevalier était censé lui apporter cette concurrence en étant très performant avec le Paris Saint-Germain. Et malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé et donc il est tranquille.
Tiens, on approche de la fin du premier quart d'heure. Entre la Turquie et le Paraguay, il y a un corner pour les Turcs qui sont menés, Flo Germain.
1-0 pour le Paraguay, effectivement. Dès l'entame de match, c'est la frappe de Galassa qui était bien placée, qui va dans le petit filet. Il s'est pris un carton jaune derrière le milieu de terrain paraguayen. Les Turcs essayent de pousser, mais toujours 1-0 donc pour le Paraguay, avec un centre en retrait tout à l'heure de la part de Aktürk Oğlu pour Arda Güler, le joueur du Real. Une frappe au-dessus. On retrouve pas le Arda Güler parfois talentueux avec le Real. Attention avec cette frappe dans la surface de réparation qui est contrée. C'est pas terminé. Les Turcs qui essayent d'insister, mais on est sur un gros pressing paraguayen qui sont vraiment dans un scénario qu'ils aiment, parce qu'ils mènent au score 1-0 et c'est une équipe assez rugueuse, assez solide, qui va donc rester regroupée derrière et essayer de jouer certains coups en contre, avec notamment Enciso qui touche pas mal de ballons et qui techniquement est intéressant. Puis aussi, ils ont un attaquant qui évolue au Brésil, en l'occurrence c'est Isil Rupito, c'est sa sixième sélection uniquement. Il a voilà un physique un peu de déménageur, là compliqué à bouger, et il y a beaucoup de duels, beaucoup de contacts. Je vous dis, on est sur un match quand même en termes
très
de
sud-américain.
Voilà, enfin oui, le sud-américain pour le Paraguay, ouais. Mais les Turcs ils se laissent pas faire, donc ça donne ouais, ça fait quelques étincelles. 1-0 aussi, pour le Paraguay, 16 minutes de jeu.
J'allais dire aussi Miguel Almirón, l'ancien joueur de Newcastle, qui est aussi d'ailleurs en MLS, hein, du côté d'Atlanta.
Il joue à Atlanta aussi, ouais.
Ouais, c'est ça, super joueur. Enfin, un peu moins bon depuis qu'il est rentré en MLS. Je pense qu'il a perdu un peu de rythme.
Ouais, 32 ans, Atlanta lui aussi.
Ouais,
Atlanta,
il était là. Il était très très bon à Atlanta. Il a eu son transfert à Newcastle et il est revenu à Atlanta. Je pense qu'ils lui ont mis un très très bon salaire.
Donc, et du coup, il travaillait plus, c'est ça?
Et du coup, il court un peu moins. Mais c'est souvent le cas, tu sais. Tous les mecs qui reviennent, là, qui ont fait un grand transfert, qui reviennent en MLS, ça, ils sont en roue libre. Je pense à Zaha, par exemple.
Wilfried Zaha?
Ouais, sans.
Quelques temps qu'il est en roue libre.
Cité, ouais.
Exactement. T'en as vu des mecs, hein, fin de carrière, roue libre, qui sont venus jouer avec toi alors que c'était plein de balles,
ouais,
quoi,
ouais.
C'est ça?
Ah, bon, mais j'étais à fond, mais c'était.
T'as permis, justement,
problème,
de. Voilà.
Le problème, c'est que t'étais toujours meilleur que moi, alors c'est. Je me suis posé la question, j'en étais dans ma carrière. Non, c'est vrai.
Tiens, tu me disais, le seul mec, tu t'es dit, c'est pas un humain, il est pas comme nous. C'est Zlatan, ouais. Ibrahimovic.
Ouais, ouais. C'est Zlatan.
T'es costaud, hein. Tu fais quoi, 87, toi, 88?
Ouais, 88, ouais, 87, 88, 87 et demi, ça se dit, non, ça se dit.
Oui, peut-être aux US, peut-être. Et non, c'est le seul, tu dis, bon, voilà.
Costaud, mais
c'est pas la même discipline.
Ouais, mais bon, je l'ai quand même mis dans ma poche, tu sais bien, mais c'est.
Bien sûr,
c'est moi, quoi.
Bien sûr. Alors voilà pour l'équipe de France. Bien sûr, on sera là. Hein. On va accompagner ce match. Philadelphie avec Max. On viendra vous voir d'ailleurs. Cher Fabrice, parce qu'on va prendre la route lundi matin.
J'ai hâte de partager la route avec toi.
Et nous, on sera tout en haut. Hein. Eux, ils seront bien placés.
Parce que moi, je serai sûrement un peu plus bas.
Bah non, tu auras le même ticket que moi pour une fois.
Et ça, je vais peut-être te sortir deux tickets de ma poche. Allez, je te dis, c'est pour moi, Nico.
Ah, bah, pourquoi pas. Premier rang. J'espère.
Ah, tu le fais rêver là.
Donc 1-0 pour le Paraguay. Le Maroc à présent. C'était l'un des points chauds de cette journée, deuxième journée de la Coupe du Monde. Le Maroc qui s'est imposé 1-0 face à l'Écosse. Nicolas Pelletier est avec nous. Salut Nico.
Salut Nico.
Il n'est pas là Nico.
Il arrive.
Il arrive Nico.
Vous passer, hein.
Il est où Nico?
Je préfère rigoler, c'est qu'en fait, je suis retourné vers lui, je dis Nico, il t'appelle là, bon. Donc il arrive, il y a pas de souci, on va vous mettre. Je fais comme les invités OM ou équipe de France, je vous mets Nicolas Pelletier à l'antenne dans un
temps. On va être transparent avec vous, bien sûr, les amis. Évidemment que aucun reporter n'est aux États-Unis.
Non, Nico, arrête.
Flo est monté à Argenteuil dans un formulaire.
Non, c'est pas vrai.
Et Nico Pelletier s'est arrêté.
Pas de bêtises comme ça.
Voilà.
Non.
Mais non, les gens, ils savent qu'on y est. Et tous les mecs, ils postent sur Instagram, c'est tout. On voit, Nico, il poste.
C'est vrai. Bah, Nico,
il fait des
stories dans des voitures sans chauffeur, donc il est forcément aux États-Unis.
Exactement.
C'est tout le monde en France.
Bon, il est là, Nico Pelletier, ou pas? Ah, il est là.
Mais bien sûr, je suis là. Ah,
très bien.
Bien sûr.
Alors, Nico, tu reviens du stade, hein, quand même, hein?
Exactement.
T'as fait le travail.
Une belle galère pour revenir du stade.
Ouais, il paraît.
Une belle galère pour. Ah ouais, c'était impressionnant.
Pour sortir du stade ou pour revenir? Parce qu'apparemment, là.
Pour revenir du stade.
D'accord.
Pour revenir
du stade, qui est assez loin de. La sortie du stade est catastrophique aussi, hein.
Avec la sortie du stade est catastrophique, oui, exactement. Et puis, pour revenir du stade, j'ai mis pratiquement une heure et demie pour revenir du stade de Boston, qui est un peu à l'extérieur.
Foxborough. Exactement.
De la ville. Et donc, ouais, c'est une belle galère.
Bon, on va débriefer bien sûr cette victoire du Maroc, un but à zéro, Saïbari qui marque. Alors, il avait fait dans la finesse sur le premier match face au Brésil. Là, il a mis une frappe de mule sous la barre. Il en est capable, on le sait. Il n'y a plus de débat. Il est le 9 du Maroc, hein, les amis, maintenant. Ça y est.
Voilà, il est 9 du Maroc, ouais, c'est
9 du PSV qui va signer, on parlait tout à l'heure avec Fabrice, au FC Bayern. C'est lui le 9.
Il a une intelligence de jeu.
Ah, d'accord. Ça que tu aimes le plus.
Il est capable de tout faire. Il vient chercher le ballon. Il prend la profondeur. Moi, je l'ai pas mal regardé aussi du côté du PSV. Je l'ai trouvé intéressant dans un rôle qui est quand même beaucoup plus reculé, mais en tant que 9,5-10. Là, c'est vrai qu'il est vraiment attaquant de pointe. Et son premier but, il est juste exceptionnel. Bon, alors après, il y a la problématique de l'Écosse. Je voulais justement faire le parallèle avec Haïti un peu plus tôt, qui n'ont pas eu peur d'aller chercher des fois les Brésiliens. Là, tu avais une Écosse qui a tellement respecté le Maroc. Alors, c'est dire à quel point le Maroc a changé de statut. Hein, vraiment, les équipes le craignent. Et finalement, tu laisses Brahim Diaz sans pression. Et le gamin, sans problème, il met un ballon dans le dos de la défense écossaise parce que Saïbari a fait un superbe appel. Et il y a cette petite touche, justement, hein, ce petit contrôle qui lui permet de remettre le ballon dans l'axe. Et derrière, il te met un pétard.
Le geste qu'il faut.
C'est fantastique. C'est un super joueur.
Il est vraiment impressionnant, Ismaël Saïbari. Moi, je pensais pas le voir à ce niveau-là.
Ouais,
je l'ai vu à la CAN. Ouais. Il était bon, mais mais je pensais vraiment pas que quelques mois plus tard on en parlerait au Bayern Munich qui ont d'ailleurs eu le nez creux, hein, les dirigeants du Bayern Munich, parce que là ils viennent de le boucler à 50-55 millions d'euros bonus compris. Je pense que s'ils attendent la fin de la Coupe du Monde, vu l'inflation, c'est plus 70-80, donc c'est vraiment un bon coup de leur part. Quand en plus, on se met en tête qu'il va aller là-bas, il sera même pas titulaire. Hein, Saïbari, le Saïbari qu'on voit là, il sera même pas titulaire. Donc, ils vont vraiment avoir une profondeur de banc très, très intéressante.
Et il peut jouer sur un côté, il peut jouer en retrait également. Oui, il est polyvalent. Mais t'as raison, il est pas dans le 11 sorti du Bayern Dias, donc, pour lui faire la place. Ouais. C'est ça le truc. Ouais. Et puis Harry Kane, sûrement, quoi. Ouais, donc
c'est compliqué. Non, mais c'est vrai que ce Maroc m'a pas déçu. Je vais être très honnête avec toi, mais quand on voit un petit peu le premier match, la performance,
la préférée contre le Brésil, la première demi-heure,
c'est
surtout.
Assez paradoxal parce qu'ils font match nul contre le Brésil et j'ai le sentiment qu'ils ont fait. Enfin, j'étais plus satisfait après ce match nul contre le Brésil.
J'ai l'impression qu'ils étaient à 200% contre le Brésil. Et là, bon, ils ont un peu levé le pied, ils étaient un peu plus tranquilles.
C'est surtout parce que je pense que la tactique brésilienne allait un peu plus par rapport à
convenait au jeu du Maroc.
Pardon, c'est le terme que je cherchais.
Le jeu du Maroc.
T'es mon petit Larousse en fait. À chaque fois,
rappelle-moi comme ça mon petit Larousse. Vas-y.
Et donc en fait, je pense que ça convenait mieux un petit peu justement aux qualités des Marocains avec beaucoup d'espace. On avait vu Boadi s'amuser au milieu du terrain face à un Casemiro qui avait l'air d'être un débutant, hein, face justement au débutant lillois. C'était incroyable. Et là, c'était un peu différent parce que les Écossais ont joué très très bas avec un bloc très resserré. Ils ont essayé justement de bloquer les passes dans l'axe avec un bloc, j'ai dit, des lignes défensives assez compactes. Et derrière, c'est un peu plus compliqué. Donc, mais c'est vrai que moi, ce que j'ai un peu été déçu de ce Maroc-là, et ça n'a pas forcément été le cas sur les 25 premières minutes où je les ai trouvés très, très intelligents, très patients, et j'ai le sentiment qu'ils ont manqué un peu de régularité, c'est-à-dire que sur les 15 dernières minutes de la première mi-temps, honnêtement, ils ont commencé à reculer, ils ont laissé le ballon aux Écossais et ils ont presque chaud à un moment donné. Alors, c'était pas des grosses actions,
si, Écossais,
mais ils ont quand même eu des opportunités. Après, pour terminer sur le
Maroc,
il y a
Maroc, un débat sur un pénalty éventuel hein, qu'ils auraient pu donner à l'Écosse.
Il
n'y
a que toi qui fais le débat parce que je pense pas qu'il y ait vraiment pénalty, mais tout ça pour te dire que le Maroc, après aussi, la grosse. Point d'interrogation, c'est qu'ils n'ont pas été vraiment efficaces. Il y a cette barre transversale de Saïbari.
Oui, il y a un gars qui me déçoit encore une fois.
Trois possibilités, est-ce que la dernière passe est mauvaise. Mais en tout cas, ouais, je suis un petit peu déçu de ce Maroc.
Totalement.
Brahim Diaz, moi je suis d'accord avec toi.
On adore le joueur, le rapport au ballon, tout ça. Ouais, les fulgurances.
Il doit plus montrer.
Mais c'est que même sur la canne, tout le monde dit qu'il était énorme sur la canne et tout. Bon, mais au final, mis à part.
Ouais, mais si, quand même. Sur la canne, il a quand même été décisif.
Ok, mais il faut entériner l'idée que c'est un joueur de fulgurance. Si t'en fais deux par match, c'est pas un joueur qui a un gros volume de jeu, tu vois. Que ce soit un mec qui va te balayer son côté.
Il finissait sur la canne, il était ultra important pour le Maroc. Malheureusement, on attend de lui qu'il soit le leader un petit peu de cette attaque. C'est Saïbari qui est en train de le devenir. On attend de lui qu'il mette du lien, on attend de lui qu'il fasse preuve aussi qui montre l'exemple tout simplement à ces jeunes joueurs avec qui il est. Il joue quand même au Real Madrid, il a un statut et malheureusement on le voit pas trop pour l'instant. J'ose espérer qu'il va se réveiller parce qu'il est c'est vraiment dans ses cordes sur les prochains matchs de pouvoir se montrer.
Je suis pas d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Non, mais je trouve que sur le premier but, c'est lui qui lance bien Saïbari. Alors après, évidemment, à l'instar d'un Vinicius, il peut un petit peu agacer, ce qu'il a toujours, et très souvent d'ailleurs.
Il y a un centre deuxième poteau à faire facile, propre.
Oui, non, mais ça peut arriver.
Ça peut arriver.
Je veux dire aujourd'hui.
Mais je trouve qu'il manque de volume. Il manque de volume sur un match.
Ah ouais, c'est pour ça qu'il peut pas jouer. C'est pour ça qu'il peut pas jouer plus de 60 minutes. Et il faut accepter le fait que Brahim Diaz, c'est la première mi-temps et qu'après, il baisse de forme parce que c'est pareil, il a pas énormément de temps de jeu non plus en club et il se retrouve dans une situation où c'est compliqué pour lui. Mais moi, je l'ai trouvé décisif. Encore une fois aujourd'hui là avec cette passe décisive, est-ce que ça va être un joueur qui va monter en puissance? En tout cas, le duo avec Saïbari, je le trouve intéressant et c'est cette combinaison dans les petits espaces. Et même s'il n'a pas été resplendissant aujourd'hui, il a été décisif. Mmh. Ce qu'on recherche d'un joueur comme Brahim Diaz.
Nico, il y avait une grosse communauté marocaine au stade.
Très grosse communauté marocaine du côté du stade de Boston. Très grosse, même énorme communauté écossaise aussi qui était présente dans ce stade de Boston, mais aussi dans la fan zone en ville. Très très gros contingent de supporters écossais. Et donc les Marocains ont essayé, tenté de faire du bruit face aux Écossais. Ils ont plutôt bien réussi pendant une bonne partie de la première période, un peu moins en deuxième période. Alors, il faudra aussi signaler, même si à l'instant T, on ne peut rien affirmer, mais Achraf Hakimi a été hué à chaque touches pendant cette rencontre. Alors, j'ai échangé avec certains supporters écossais. Certains me disaient tout simplement que c'était parce que c'était le meilleur joueur de l'équipe et qu'il fallait le huer pendant toute la rencontre. D'autres mettaient en avant ses problèmes judiciaires en France. On sait que depuis ce matin, depuis hier matin, il est renvoyé pour viol devant la cour criminelle. Donc, certains mettaient cela aussi en avant. Donc, on peut pas affirmer à l'instant T que c'était uniquement pour son affaire judiciaire en France. Certains le huaient tout simplement parce que c'était il est considéré comme le meilleur joueur de l'équipe marocaine. Et puis vous l'avez un peu globalement résumé, hein, je vais vous faire écouter quelques supporters marocains avec qui j'ai pu échanger en fin de match. Mais globalement, on retient les trois points, c'est le plus important, c'est le fameux jingle de l'after, donc c'est très important. Mmh. Et aussi, on retient aussi quelque chose de plutôt important, c'est que le manque d'efficacité, c'est-à-dire qu'on est à deux buts en deux matchs, on n'atomise pas les adversaires comme certains peuvent le faire, et ça aussi les supporters marocains l'ont un petit peu retenu.
C'était solide, c'est surtout le plus important pour nous. C'est pas de faire des folies ou de faire du spectacle, mais de prendre des trois points, c'était l'essentiel pour nous aujourd'hui.
Je dirais que c'était moins flamboyant que le match du Brésil, mais le Maroc maintenant il veut gagner une compétition, pas juste gagner des matchs.
Ouais, je pense qu'il a fait Wahbi, il est formé à la française, il a fait une Deschamps. Deuxième mi-temps, il est rentré, il leur a dit les garçons, on va rentrer, on va blinder, tu vois.
Ouais, c'était un peu moins flamboyant, un peu difficile au niveau des remplacements, je trouve. Rémi, pas très bon. Mais sinon, en règle générale, la qualification est faite, c'est le principal.
On va se qualifier, on va arriver en finale. Allez le Maroc. Ah oui.
C'était beaucoup moins flamboyant, mais bon, le résultat est là quand même. On gagne 1-0, mais il faudra s'améliorer pour la suite, parce que si on va aller plus loin, il faut être un peu plus précis sur la finition.
On vise la Coupe du Monde et rien d'autre.
Et ouais, l'ambition des Marocains, évidemment. Le plan pour l'instant de route, il est quasi parfait. Hein. Le nul contre le Brésil, ils auraient signé. La victoire contre l'Écosse, 1-0, ok, t'as 4 points, c'est coffré. Tu finis par Haïti, tu peux terminer premier du groupe.
Exactement.
T'es en meilleure position que le Brésil, finalement.
Avec un peu plus de réussite, tu gagnes contre le Brésil.
Il faut planter, parce que le Brésil a fait plus 3 ce soir au galérage.
Moi, là où je me questionne par rapport au sud du parcours des Marocains, c'est aussi leur défense centrale.
Oui.
Là, j'ai trouvé un Issa Diop quand même un peu en difficulté. Bon, qui a pris un carton jaune très tôt, mais c'est vrai que quand tu regardes individuellement cette équipe, ils ont des très très bons joueurs à tous les postes, et notamment les arrières latéraux, qui pour moi sont peut-être les deux meilleurs arrières latéraux du monde. Mais c'est vrai que ça,
même Mazraoui meilleur depuis le début de ce mondial qu'Hakimi.
Ça contraste un petit peu avec la défense centrale, Riyad, Issa Diop. C'est bon, on va voir ce que ça va donner contre des oppositions un peu plus élevées, mais même là cet après-midi, c'était moyen.
Tiens, rapidement, une info breaking news, Fabrice Hawkins. Le Brésil a communiqué la Fédé sur la blessure de Rafinha.
Ouais, suite à la blessure et à la sortie de Rafinha contre Haïti tout à l'heure, la Fédé brésilienne communique et explique que Rafinha a ressenti une douleur derrière la cuisse droite, qu'il va y avoir des examens prochainement et que sa situation sera réévaluée. On parlait de forfait tout à l'heure. Pour l'instant, il n'y a pas de forfait acté. Les examens, donc, et ensuite la Fédé fera un point sur la situation du milieu, enfin de l'ailier de Barcelone.
Tiens, rapidement, avant de libérer Nico, encore dire un mot sur ce duel entre le Maroc et l'Écosse et des Marocains surtout. Fin de la pause fraîcheur, Flo Germain, Turquie-Paraguay.
Deuxième carton. Oui, effectivement. 28 minutes de jeu à San Francisco, 1-0 pour le Paraguay. Le but, il est venu dès la deuxième minute, donc d'une frappe paraguayenne du joueur d'Atlanta. Atlanta Galassa qui a trompé le gardien turc Ugurcan Shakir de Galatasaray, et donc le Paraguay qui pour le moment tient les Turcs, essayent avec Arda Güler notamment Walter Kudlou de réagir, mais c'est pas évident parce que les Sud-Américains et Paraguayens sont bien regroupés derrière et font pas le match de leur vie, mais en tout cas on les sent en mission parce que je le disais ça a fait beaucoup parler la défaite initiale contre les États-Unis. Ils ont été énormément critiqués au pays, donc on les sent redevables peut-être vis-à-vis de leurs supporters. 1-0 pour le Paraguay, bientôt la demi-heure à San Francisco.
Tiens, Nico Pelletier nous parlait de Achraf Hakimi, titulaire évidemment. Ce matin, il a appris. Eh bien, oui, on m'a parlé ? Ah, c'est pas fait exprès, Maxime Abolin, notre producteur, qui m'a parlé, c'est pas le bon bouton. Achraf Hakimi qui a appris qu'il serait jugé pour viol ce matin. Écoutez ce que dit son sélectionneur, Mohamed Wahbi. La question lui a été posée, est-ce que vous avez douté à l'idée de le titulariser pour ce match ? Sa réponse.
Vous avez vu le match ? Je suppose que oui. Achraf Hakimi avait l'air très très bien. Aux anges, on est derrière lui et il a fait un très gros match. Donc nous, on est très tranquille, et surtout lui très tranquille par rapport à ça, et je l'ai senti tranquille et il a fait un très gros match.
Bon, voyons, il n'y a pas de signe apparent de stress ou de perturbation, Nico, hein, chez Achraf Hakimi. Même à l'échauffement, quand tu le vois, tout ça, rien.
Ouais, on l'avait même vu hier soir à l'entraînement. Il était totalement détendu à quelques heures de connaître cette décision donc importante pour la suite de sa carrière, parce que ça veut dire que dans, peut-être pas dans les 6 prochains mois, mais sous une année, je pense qu'il y aura un procès, et un procès pour viol, ce n'est pas rien, et un procès pour viol devant une cour criminelle du côté de la région parisienne. Donc oui, c'est un moment important pour la suite de sa carrière. Et une autre petite info que l'on peut vous donner aussi, c'est que son avocate, qui était l'invité de BFM TV hier soir, a indiqué que Kylian Mbappé allait être cité en tant que témoin dans ce procès. On sait que Kylian Mbappé a fourni une attestation dans ce dossier qui concerne l'un de ses meilleurs amis lors de son passage au Paris Saint-Germain. Et donc, Kylian Mbappé devrait être cité en tant que témoin dans ce procès. Donc, ça sera un procès hautement médiatique et un procès hautement important pour l'avenir d'Achraf Hakimi.
Voilà tout ce qu'on peut dire sur la situation personnelle d'Achraf Hakimi, bien sûr, qui ne pourra pas aller au Canada, Nico aussi, hein.
Alors on a regardé, c'est vrai que c'est un élément important, t'as raison Nico, mais on a regardé les différents scénarios pour que le Maroc aille au Canada. Il n'y a pratiquement aucun cas possible, vu que le Maroc a en plus maintenant 4 points. Il n'y a aucun cas possible pour que le Maroc aille au Canada. En revanche, il y a un élément important, c'est que le Maroc va croiser, si je ne dis pas de bêtises, avec le groupe de la Suède, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, le Maroc va croiser, s'il termine deuxième, avec un premier de groupe. C'est-à-dire que le Maroc n'a pas de choix de troisième ou de meilleur troisième, comme peuvent avoir certains groupes. Et donc, c'est un groupe assez difficile qui va se présenter face au Maroc dès les 16e de finale.
Voilà pour la situation d'Hakimi. Il y avait aussi dans ce stade, anecdotique mais quand même, l'un des chômeurs les plus connus du football. Pep Guardiola était là.
Ah ouais.
Et ça a beaucoup fait réagir au Maroc. Hein, Fabrice, on rappelle qu'il a quitté, il a terminé son contrat avec City. Il est libéré tout engagement pour l'instant. Certains disaient il y a quelques mois, hein, pourquoi pas Guardiola, qui aime le Maroc aussi, pour succéder à Wabi.
Je croyais que tu allais dire en Écosse.
Non, c'est moi sur football.
Non, mais je me souviens, ça avait fait parler énormément. Effectivement, il a fait une dizaine d'années à City, il s'en va. Pourquoi pas le Maroc, qui cherchait un remplaçant à Regragui à l'époque. Bon, malheureusement, ça se fera pas. De toute façon, Wabi est là. Il est plutôt bien d'ailleurs. Après, on va voir ce qu'il va faire, évidemment, hein, parce que vous savez comment ça se passe. S'il fait une très bonne Coupe du Monde, ce sera le meilleur. S'il en fait une mauvaise, certains vont réclamer sa tête. Mais en tout cas, j'ai pas de nouvelles positives à annoncer sur une arrivée à court terme ou à moyen terme de Pep Guardiola, qui semble destiné à se reposer un petit peu.
Ouais, il a raison. Quand même, il a bossé un peu.
Ou une grosse équipe ou la sélection espagnole.
Il a bossé, puis il a un peu le plein qui peut dépenser. Maintenant, je crois. Il a pas d'argent de côté, Max. Hein. C'est comme toi, quoi. Poste de carrière.
Ouais.
Toi, t'es encore large pendant 15 ans, 20 ans, je pense.
Tu m'as reproché d'avoir posté, enfin, en tout cas, mon CM est posté une photo de Pep.
Que mon CM est posté,
je termine. Peut-être que demain, je posterai une photo de moi et de Pep. Voilà.
Ah bon?
Oui, peut-être, je verrai. Ça va dépendre de
circonstances, contexte.
On a parlé de lui, on l'a vu au stade, voilà. C'est peut-être le prochain sélectionneur de l'Écosse.
D'accord, ok. Bah, c'est l'annonce que tu fais. Pourquoi pas, j'ai du mal à
info canot.
Nico, merci. Alors, il paraît que c'est la folie écossaise à Boston. Moi, je vois des vidéos partout. Toi, je sais pas si tu as croisé la Tartan Army. Écoutez juste, on connaît ce refrain. Je te donne la parole dans un instant, Nico. C'était sur un bateau. Il prenait l'apéro. 5000 dans les rues de Boston. En plus, l'Écosse a joué ses deux matchs à Foxborough. Écoutez. C'est encore plus impressionnant à l'image. Alors, il pourrait se renouveler aussi, hein, ça marche, hein, mais ça date maintenant, hein, depuis un moment, depuis l'Euro 2016, hein, on chante ça. Hein, mais bon, après, bravo, magnifique image. Nico, tu les as croisés ou pas?
Ouais, bien évidemment, autour du stade, ils étaient déjà très nombreux. Ils sont encore nombreux dans le pub juste en bas de chez nous. Hein.
Argenteuil, donc, ils sont incroyable. Encore
ouais, c'est très impressionnant. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure à Gilbert lorsqu'on a pris l'antenne, c'est que c'est impressionnant de voir des personnes qui sont plus rouges que le drapeau du Maroc, parce que entre les coups de soleil et les descentes d'alcool qui se font toute la journée, la descente de la bière qui se passe plutôt bien, ils sont rouges, mais rouges, vraiment très très rouges avant le match. Donc je vous dis, imaginez après le match, là, il est 23h30 en bas dans le pub, en bas de chez nous. Je pense qu'ils sont très, très, très rouges.
Bon, ça dit, j'ai vu ta photo, hein, parce que quand vous parlez dans l'after, il y a également une diffusion. On est sur YouTube en direct. Merci. Vous avez plus de 1000 à nous suivre en direct à 5h34 du matin, et ça, c'est
un peu
fort.
Moins, je suis très blanc.
5h34 du matin, quand même, sur After Foot TV. Effectivement, Fabrice, il a rigolé parce qu'il sait où je veux en venir, en fait. Hein. T'es le plus palo de nos correspondants. J'espère non, là, que t'as après, pas rougi après. Au soleil à Boston quand même, parce que tu te moques des Écossais, mais tu peux finir comme une crevette.
Après deux semaines passées à Los Angeles, je peux vous dire que j'ai un teint allé.
Non, impossible. T'auras jamais un teint allé, Nico, c'est impossible.
Tu mets la crème en sortant, crème solaire.
Un teint allé, bon, mais très bien.
Pas de crème.
Pas de crème.
Ah. C'est une info. Une info, Fabrice.
Fabrice.
Je vais constater ça sur pièce. Enfin, je vais juger sur pièce. Je vais
Nico, merci. Je te laisse libérer la chambre de Flo, hein, qui va pouvoir se concentrer uniquement sur le match. Merci, Nico.
Bonne soirée, les amis.
On dit tout. Hein. Bonne soirée, à très vite.
Ils sont impressionnants, quand même, les Écossais. Moi, je les ai vus en arrivant à Boston. À l'aéroport, je me souviens, tout sans kill, cornemuse. Ah tu oui, te dis, mais comment ils ont fait ça? Comment ils ont fait pour rentrer avec ça déjà
exactement,
dans l'avion?
Exactement, il y a des parades dans Boston, il y a 40 cornemuses, ils avancent dans la ville, c'est merveilleux.
New York, Manhattan, c'est pas mal. Hein,
Manhattan aussi.
Ouais, j'avais été surpris. Ouais.
Est-ce qu'il n'y a pas une diaspora? Je pense qu'il y en a une aussi, une communauté écossaise.
Écossaise, peut-être.
Possible, possible. Alors, Flo, énorme occasion pour la Turquie qui est menée par le Paraguay.
Oui, 1-0 pour les Paraguayens depuis la deuxième minute. Galassa qui a marqué donc d'une frappe assez lointaine, et c'est une tête de Muldur à laquelle tu fais référence qui a tapé le poteau. La frappe des Turcs, attention avec l'occasion justement de Muldur qui est très offensif. C'est peut-être pour cela qu'il y a eu un choix fait par le sélectionneur Vincenzo Montella, alors qu'il y a justement un joueur turc qui est au sol. Il y a un contre en faveur des Paraguayens, la 37e. 1-0 pour le Paraguay. C'est à nouveau Galassa qui met dans la phase de réparation. Enciso, le crochet qui était pour lui-même pour enchaîner avec une frappe, il est rattrapé au final par la charnière donc Turc. C'est un match qui va d'un camp à l'autre, c'est assez intéressant.
Enciso
encore qui décale côté droit, la frappe et la parade du gardien turc Ugurcan Çakır. Les Paraguayens qui étaient pas loin du 2-0, et les Turcs effectivement qui se sont créés leur grosse occasion de cette première période. La tête de Muldur qui a fait barre transversale d'un effet d'optique, on aurait pu croire que c'était rentré, mais pas du tout. Donc pas de chance pour les Turcs qui sont menés à 0, 37e minute à San Francisco.
On est sur un rythme très très intense, hein. C'est sacrément haché, hein. Je parlais d'une mentalité sud-américaine, parce que ça me rappelle un petit peu les matchs de Copa América là. Vraiment, on sent que le Paraguay, là, ça, ils ont envie d'accélérer. Les Turcs, voilà, qui les matchent bien.
Qui veulent égaliser, absolument, c'est un match à fort enjeu entre les équipes à 0 point, qui veulent arracher une deuxième place dans ce groupe. On suit ce match avec vous, bien sûr. Avec toi, Flo Germain, on fait une pause. Dans un instant, on revient. Nico Pelletier va revenir, finalement. Il était heureux d'être avec nous ce soir dans la chambre de Flo Germain, donc il a encore des choses à nous dire sur le Sénégal. Vous savez, beaucoup de choses ont été écrites et dites, notamment dans les médias africains, en expliquant que le groupe était quasiment au bord de l'implosion. On va vous dire nos informations, ce qu'on sait réellement. C'est pas aussi alarmiste que ça, hein, Fabrice.
Exactement.
On en parle dans un instant avec toi, avec Nico Pelletier, Maxime Chano, qui a eu des infos aussi aujourd'hui, je crois, hein, Maxime.
Ah ouais,
t'as mené ton enquête, ça y est.
Ouais, je mène mon
enfin
enquête,
des infos.
Ouais. J'apprends des meilleurs.
Pause, on vient dans un instant, il est 5h38 du matin en France, 23h38 ici à New York. Vous écoutez l'After RMC en direct, tout de suite.
RMC After Live, intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
Maxime Chano est là, Fabrice Hawkins aussi, Flo Germain également. Flo, un match en cours, le dernier de notre journée sur notre fuseau horaire entre la Turquie et le Paraguay. Le temps, le score, Flo.
1-0 pour le Paraguay à San Francisco. Il reste 4 minutes à jouer dans cette première période, avant évidemment le temps additionnel. Et le buteur, on le rappelle, Mathias Galassa, une frappe pied gauche, petit filet magnifique, assez fusante là et puissante. Donc le Paraguay qui tient et qui mène devant la Turquie.
Nico Pelletier est de retour, le temps d'aller mettre de la crème sur son visage rougi par le soleil de Boston. Boston est à Massachusetts,
c'est ça. Tu peux l'appeler.
Très
oui,
dur à dire. Ah, bonne question, j'aime bien. J'arrive à le dire.
Il n'y a rien à voir avec les chaussettes.
Massachusetts.
Pense à Massachusetts.
M-A-2-S-A.
Ouais. On s'arrête là, c'est
C-H.
Bon. Parfait.
Massachusetts. S-E-T-S.
Je dirais 2-T, non 2-T-S.
Ah, il y a 2-T.
Voilà.
Je l'avais pas.
Et le voilà, le professeur Chano. Je sais tout faire. J'ai des infos foot. Je sais bien épeler.
Apparemment, tu l'as fait tout à l'heure avec Gilbert, on me dit.
Ben voilà.
Quel escroc celui-là. Quel bandit. T'es un bandit.
Merci, mon champion. Merci, Max. Tu m'as trahi.
Il faut balancer un peu. Alors, Nico, tu es revenu pour le Sénégal. Car aujourd'hui, beaucoup d'informations ont fuité sur les réseaux, notamment au sein de certains médias africains, qui décrivaient une situation quasiment catastrophique, limite une sélection au bord de l'implosion. Comment vit le groupe de Papio, Nico? Aujourd'hui, on a nos informations, bien sûr.
On va commencer par le dossier peut-être le plus sensible qui concerne le sélectionneur Pape Thiaw, le technicien qui a gagné sur le terrain, on va dire, la Coupe d'Afrique des Nations 2025, n'a toujours pas signé son contrat. Alors ça, il y avait quelques éléments qui bruissaient depuis plusieurs mois qu'il n'avait pas encore signé son contrat. On est à une journée de Coupe du Monde jouée. Il n'a toujours pas signé son contrat, ça on peut vous l'affirmer ce soir.
Attends, c'est important, Nico, il n'a pas signé, mais on lui a transmis un contrat ? Ou il a
on lui a
de signer.
Transmis un contrat, mais il y a encore des discussions entre les deux parties. Il y a des points d'achoppement qui existent entre les deux parties. Donc, à l'instant T, il n'a pas signé son contrat.
Il n'est pas payé, justement, depuis un petit moment.
Et il y a un autre élément qui découle de cette information, c'est-à-dire qu'il n'a pas de contrat. Et donc, il va falloir qu'il en signe un très rapidement, parce que s'il ne signe pas ce contrat très rapidement, ça peut fortement intéressé la commission juridique de la FIFA, parce que vous le savez, un entraîneur ou un joueur n'a pas le droit de jouer sans contrat une compétition de la FIFA, même une compétition en temps normal. Donc il va falloir très rapidement régler cette situation pour le Sénégal qui joue face à la Norvège lundi, dans la nuit de lundi à mardi en France. C'est un point très important du dossier sénégalais. Ça a bruissé chez nos confrères de Sport News Africa en premier, et donc on vous confirme cette information. Pape Thiaw n'a toujours pas signé son contrat actuellement. Il y a une autre information, Nico, si tu veux, j'enchaîne.
Ouais, tu peux enchaîner sur le confort en fait des joueurs également, quoi, dans
exactement.
Ce mondial.
Alors, et ça, c'est pas que les joueurs, même des personnes de la fédération avec qui j'ai pu échanger tout à l'heure, même le confort global de l'hôtel qui est utilisé déjà par les Sénégalais dans la région de New York n'est pas du tout au point pour une équipe de sport professionnel et surtout une équipe engagée dans une compétition de la Coupe du Monde. Autre point qui énerve un petit peu les joueurs, la qualité des repas, c'est qu'on peut peut-être en sourire, mais c'est le nerf de la guerre dans une compétition de longue d'un mois important. Et demi. C'est très très important, et donc la qualité des repas laisse à désirer, et certains joueurs commencent à en avoir marre des repas qui sont fournis et donc faits par la fédération par
okay, quand même, le chef habituel en fait sénégalais n'a pas fait le déplacement. Hein.
Voilà, et Fab a raison d'ajouter cela. Donc c'est des points importants et ça crée des petites tensions. Tout cela, le contrat de Pape Thiaw, la bouffe qui est pas bonne, l'hôtel qui est pas bien. On est après une défaite face à l'équipe de France. On n'est pas non plus au mieux. Alors
et avant match, c'est important.
Combien de temps sont-ils censés rester dans cet hôtel?
Ben parce que en fait ils ont pris un camp de base. Déjà ils sont rassemblés depuis si j'ai pas de bêtises, Fabrice va peut-être me corriger, fin mai ils sont rassemblés depuis fin mai tous ensemble. Ils ont pas eu beaucoup de repos. Ils ont eu un jour off après la défaite face à l'équipe de France, mais ils sont rassemblés dans cette région de New York et ils doivent y rester assez longtemps parce qu'ils vont juste faire un déplacement pour aller du côté, si je dis pas de bêtises, d'Atlanta et revenir et jouer un autre match dans la région de New York. Donc ça va encore durer de vivre dans cet hôtel jusqu'à la fin de la compétition. On verra la suite de la compétition pour le Sénégal. Mais voilà quelques points de tension. Je pense que la conf de Pape Thiaw en veille de match.
Tu crois qu'il va envoyer
Elle peut potentiellement être intéressante.
Les questions lui sont posées.
Il peut y aller, lui. Oui. Il peut y aller, effectivement.
Moi, j'ai entendu que.
Je termine juste parce que sur la première conférence de presse, il y a quelques questions qui lui ont été posées. Et il n'a pas non plus été bien loin. Là, ça commence à sortir dans les médias. Donc peut-être qu'il peut aller plus loin dans ses réponses. On verra conf de veille de match de la Norvège qui se tiendra dimanche.
C'est que lui est insatisfait évidemment de la situation, à la fois pour ses joueurs, pour la situation personnelle également. Bon, Nico, merci. Cette fois, t'es libéré définitivement.
Bonne soirée, les amis.
Bonne soirée.
Merci,
à toi.
Nico.
À très vite sur RMC. Flo Germain, on est dans le temps additionnel là de ce duel entre la Turquie et le Paraguay.
Ouais, c'est toujours aussi tendu. 1-0 pour le Paraguay. Le buteur Galanza à la deuxième minute, une belle frappe pied gauche. Là, il y a eu un dégagement turc sur Isidro Pita, l'attaquant dont je parlais tout à l'heure, avec sa belle barbe rousse là un petit peu, qui est resté au sol trop longtemps au goût des Turcs qui se sont énervés. Ils ont le sentiment que les Paraguayens veulent gagner du temps. Je trouve que l'arbitre Monsieur Barton du Salvador Salvador fait pourtant son match et il est obligé de temps en temps sévir, intervenir. Il a mis un carton jaune à un adjoint turc sur le banc. Et là, que va-t-il voir la vidéo? La vidéo. Alors, est-ce qu'il y a eu un mauvais geste qui nous aurait échappé? Ouais, c'est possible. Ouais. Check carton rouge. Ok. Mais pour qui? C'est juste ce qu'il faut vérifier. J'ai un œil sur le ralenti. Ah, je sais pourquoi.
Miguel
non, je sais pourquoi. Il y a la nouvelle
c'est
règle.
Almiron qui cache. Non. C'est Almiron
oui,
qui
voilà.
cache.
Il a raison. Il va y avoir un carton rouge. C'est la nouvelle règle avec le numéro 10 paraguayen qui couvre. Oui, Almiron qui couvre sa bouche et qui s'adresse à un joueur. La règle, c'est que quand vous vous couvrez la bouche et que vous vous adressez à un joueur adverse, vous êtes susceptible de prendre le carton rouge. Les joueurs ont forcément été prévenus et donc Almiron.
C'est un réflexe. Oui. C'est terrible pour lui.
C'est un réflexe, mais il y a des nouvelles règles. Nico, il y a des nouvelles règles. Mais
Après,
je précise juste, les règles, c'est pas uniquement de se couvrir la bouche avec la main, c'est quand tu t'adresses à un adversaire. Parce qu'il y avait eu, rappelez-vous le cas Vinicius contre le Benfica, où il y avait
Prestiani,
Prestiani qui avait été accusé de propos racistes. Alors évidemment, avec la vidéo, c'est compliqué de voir quand on a la main sur la bouche. Et donc, le règlement, maintenant, est très clair. L'arbitre, Monsieur Barton, a décidé de sortir le carton rouge.
Je peux te dire que c'est pas le plus agréable, hein. Et il a tendance à insulter un peu tout le monde.
Bah, quand on voit la bouche et quand on voit le regard qu'il lance, on imagine qu'il lui.
On sait pas ce qu'il dit,
mais bon,
il lui dit pas je te kiffe, mec, c'est sûr. Ce qui est marrant, c'est que son adversaire turc, il a tout de suite réagi. Il a dit carton rouge. Il connaissait la règle sur le bout des doigts. Lui, il savait très bien que le moindre mec qui met la main devant la bouche. Ouais, et oui, t'es forcément.
Mais parce qu'ils sont briefés par les arbitres. On vient leur dire. C'était le cas aussi pour l'équipe de France. On leur dit, faut pas faire ça. On leur explique les nouvelles règles. Et ils le savaient. Malheureusement, il a oublié. Et ça va coûter très très cher au Paraguay qui mène 1-0.
Il laisse ses coéquipiers à 10 contre.
Les amis, on a 3 minutes.
C'est un autre match qui commence. 1-0 pour le Paraguay.
Exactement. Faire un coucou à notre ami Edgar Grollo. Vous savez, notre drôle de dame espagnole qui est au chevet de l'Espagne. Edgar, salut.
Au chevet de l'Espagne.
Salut Nico, salut tout le monde.
L'Espagne est malade, l'Espagne est en plein doute. Elle a fait nul contre le Cap Vert.
Oh, tout de suite.
Elle est ou pas? Elle est ou pas alors, Edgar?
Non. En réalité, il n'y a pas vraiment de doute, en tout cas, qui émane du camp de base de l'Espagne. On sent tout le monde confiant. On sent finalement la même mentalité qu'avant le premier match, très honnêtement. Et d'ailleurs, on en a parlé sur les dernières semaines, ce qui caractérise cette équipe, c'est la tranquillité qui a autour, la tranquillité même des médias autour de cette équipe. Ça se voit dans les questions qui sont posées aux joueurs. Alors oui, là, on leur a posé ces derniers jours les questions de savoir s'ils étaient inquiets de ce match nul, mais on peut écouter, si vous voulez, la réponse, par exemple, de Pau Cubarsí, qui lui n'est pas du tout inquiet après le premier match nul de l'Espagne face au Cap Vert.
Nous n'avons jamais de doute. On connaît le niveau de l'effectif et du staff et il faut toujours avoir confiance. On sort de 32 matchs sans défaite et on a fait du grand travail ces dernières années. Je crois qu'on ne doit pas quitter cette dynamique. On sait comment marche le football, des fois de la joie et des fois moins, mais on doit poursuivre la même dynamique.
Pas de doute dans les mots de Pau Cubarsí. Ce sera l'Arabie Saoudite dimanche pour l'Espagne qui doit gagner absolument pour espérer au moins terminer première de ce groupe, au mieux en tout cas. La grande question, c'est la minimale, bien sûr, Edgar. On sait trop juste pour jouer un match en intégralité. C'est Luis de la Fuente qui l'a dit aujourd'hui. Est-ce qu'il pourrait débuter quand même ce match?
Alors il y a une incertitude, il l'a dit à la RTVE, donc la chaîne publique espagnole, en interview, il a dit « je ne suis pas encore prêt pour disputer un match en intégralité ». Est-ce que ça veut dire qu'il va jouer 60 minutes? Est-ce que ça veut dire qu'il va en jouer 45 ou 30? Là est toute la question. En tout cas, c'est un match qui est devenu un match à enjeu pour l'Espagne, alors que ça aurait pu être un match un petit peu plus tranquille s'ils avaient déjà 3 points assurés. Il y aurait eu un peu moins de pression, même si ça reste un match de Coupe du Monde important. Je pense que Luis de la Fuente va prendre une décision assez tardive pour le nombre de minutes. En tout cas, il jouera pas les 90 minutes. Je pense que le scénario le plus probable aujourd'hui, c'est plutôt de le voir jouer un beau bout de la deuxième période, même si c'est pas impossible non plus de l'imaginer jouer une heure de jeu. Tout va dépendre de ses sensations. Lui dit que Nico Williams va un peu mieux que lui. même si Nico Williams a eu moins de temps de jeu que lui lors de la première journée face au Cap-Vert. Donc c'est difficile à savoir, et en tout cas c'est un vrai problème pour la sélection, parce que Victor Muñoz, qui était l'un des ailiers remplaçants, lui non plus il est pas à 100%. Donc en fait tu te retrouves avec trois ailiers qui sont pas à 100%, et avec ton quatrième ailier Jérémy Pino, qui est l'un des plus mauvais joueurs de l'effectif, même si c'est un bon joueur. C'est pas un joueur aujourd'hui, visiblement, puisqu'il l'a pas mis lors du premier match, c'est pas un joueur à qui Luis de la Fuente
a
une confiance immense. Voilà, exactement, il compte pas énormément sur lui. Ce qui est embêtant quand t'as un joueur dans tes 26, c'est que t'as trois ailiers à ce poste-là justement qui sont blessés.
Ce sera dimanche, et déjà un match à enjeu. Tu seras là pour le commenter, ce sera à Atlanta, l'un des plus beaux stades. Ce sera un stade demi-finale de Coupe du Monde, Atlanta, qui avait coûté plus d'1,5 milliard d'euros, ce stade. C'est une folie.
Il est magnifique. Il est magnifique. Ouais, t'as l'impression que c'est une fleur qui s'ouvre et qui se ferme. Énormément de bruit.
Il nous l'avait décrit, Edgar, c'est exceptionnel. Ouais. Atlanta, ville de Martin Luther King.
Ah ouais, j'allais dire ville de foot.
Bien sûr.
J'allais dire que c'était la ville des Migos, mais bon. C'est pas la même.
C'est quoi ça?
C'est un groupe de rap.
Les Migos, c'est pas. Le groupe de rap.
Excellent.
D'accord, mais ça, c'est mon Edgar, ça, évidemment. C'est aussi la ville du siège social de Coca-Cola aussi.
Tu sais, mettre à jour, Nico, parce qu'il y a une vraie scène rap à Atlanta.
Bah, mais moi, avant, j'avais une drôle de dame espagnole qui me faisait écouter la musique classique. Maintenant, la drôle de dame espagnole nouvelle génération, elle me fait écouter du rap ou du reggaeton. Et il se trouve que l'ancienne drôle de dame espagnole est avec nous en direct. Car dans un instant, c'est bonjour, c'est Fred. Quel symbole!
Hola, chicos! Ça fait un an que j'ai pas dit hola, chicos, ça me demande.
Voilà, Fred.
Ça va, les copains?
T'es inquiet pour l'Espagne ou pas?
Non, moi, je trouve que c'est toujours mieux quand on démarre pas trop bien une Coupe du Monde. Quand ça va trop bien tout de suite.
T'as raison, c'est vrai. Ouais, donc l'Argentine, par exemple, l'Espagne avait fait aussi en 2010.
Ils avaient perdu le match d'ouverture en 2010.
1-0 contre la Suisse. Alors t'es pas content des musiques
C'est que du reggaeton et du rap. Comment je fais, moi?
Mais c'est là, bien le rap, mais bon. Tu vois le gap générationnel, mon cher Nico.
C'est ça. Sans transition. Bon, Fred, bonjour, c'est Fred, c'est dans un instant.
C'est dans un instant, mais bien entendu, vous saurez tout, vous ne manquerez rien de ce passionnant match Turquie-Paraguay. J'ai du mal à dire Paraguay, parce qu'en Espagne on dit Paraguay. Turquie-Paraguay. Franchement, moi je suis déjà énervé, parce que expulser un mec parce qu'il a mis sa main devant sa bouche, enfin je comprends pas.
Ouais,
ça va faire des beaux débats dans l'after, ça.
Ah oui, je te confirme.
Ouais, là-dessus, donc et bien sûr Flo Germain sera, on fera plein de points avec lui, et puis dès qu'il se passe quelque chose dans cette rencontre passionnante, et ben le micro est ouvert pour Flo Germain. Bonne nuit les gars, bonjour chez nous, à très bientôt.
Salut à tous.